Europe 1, la libre antenne, Olivier Delacroix.
Bonsoir à toutes et à tous et un grand merci à toute l'équipe de Lionel Rosso pour cette belle soirée de sport sur Europe 1. C'est maintenant le temps de votre libre antenne, il est 23h09 et comme tous les soirs, nous nous retrouverons à cette heure-ci, chers amis, pour vous accueillir dans un premier temps et vous écouter dans un second temps. 39-21, 50 centimes d'euros la minute pour nous appeler, 7-39-21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace pour vos messages, vos SMS, et puis vous êtes toujours aussi nombreux sur le groupe de la Libre Antenne, vous êtes 17 468, où vous pouvez nous écrire vos messages en privé, et Florian et Natacha vous répondront, et bien évidemment, vous pouvez aussi adresser vos messages, c'est la rentrée, excuse-moi, c'est Julia, et Julia, en plus, le jour de son anniversaire, je l'appelle Natacha, ça va beaucoup mieux. Julia qui fête ses 23 ans, messieurs, dames, ce soir, 22, pardon, 22 printemps, la vie est belle, la jeunesse est belle. Vous pouvez écrire à Julia et à Florian en message privé. Et si vous voulez bien évidemment parler à Yann Moix le week-end, n'oubliez pas d'adresser aussi vos messages à Yann qui a deux charmants collaborateurs qui vous répondront eux aussi dans les plus brefs délais. Pour le moment, la vie est belle puisque nous sommes ensemble. Et votre libre antenne du lundi, c'est parti.
Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
Et pour débuter cette émission, nous allons accueillir une jeune femme qui mène un combat des plus importants, un combat dont on entend finalement très peu parler. Et ce soir sur Europe 1, elle nous fait le plaisir de venir nous parler de ce sujet. J'accueille Anissa au 39-21. Bonsoir Anissa.
Bonsoir.
Alors Anissa, je vois que vous êtes animatrice. Animatrice de colonies, vous êtes en centre de loisirs, c'est ça ?
Non, je suis seulement en colonie de vacances.
Colonie de vacances, d'accord. Mais vous êtes aussi une personnalité sur TikTok, puisque vous avez lancé, on va le voir, un mouvement, mais je vous laisse en parler, le présenter. Vous avez plus d'un million de personnes qui vous suivent sur TikTok. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes une influenceuse ? Un million, oui, non ?
Oui, on peut dire ça comme ça. Après, ce n'est pas tellement un terme qui me correspond, je pense. Je pense que c'est plus personnalité publique, militante,
oui.
Plus qu'influenceuse. Mais oui, c'est vrai qu'on a tout de même de l'influence avec une aussi grande communauté.
Alors, bien évidemment, je vous félicite parce que il est vrai. Hier soir sur France 2, il y avait un documentaire. Enfin, en tout cas, il y avait un envoyé spécial, mais un complément d'enquête sur justement tout ce qui tourne autour des influenceuses et des influenceurs. Mais vous êtes totalement différente. Et même si j'estime que oui, vous êtes une influenceuse parce qu'il y a un million de personnes qui vous suivent sur TikTok, ce réseau social qui est très présent chez les jeunes. Vous avez aujourd'hui un rôle à jouer. Vous menez un combat depuis un moment, Anissa. Quel est-il ? Et expliquez-moi, de quoi il est né ? Il est né comment, ce combat ?
Merci beaucoup, tout d'abord. Et ensuite, écoutez, moi j'ai créé le mouvement qui s'appelle MeToo Animation, qui est devenue par la suite une association que j'ai créée, que je préside actuellement, qui a pour but de lutter contre les violences sexuelles sur mineurs dans le milieu de l'animation. Donc ça comprend les colonies de vacances, les centres aérés. Moi, j'aimerais aller plus loin, c'est-à-dire toucher aussi tout ce qui est surveillant de collège, les animateurs dans les campings. Mais là, je me suis surtout axée sur ce que je connais, donc les colonies de vacances, les centres aérés, donc les animateurs qui sont diplômés du BAFA. Et du coup, ce mouvement est né simplement de 4 années d'animation où j'ai constaté de nombreuses violences de toutes parts, mais du coup sexuelles, durant ces années-là.
Ça part tout d'abord d'une expérience personnelle, vous en tant qu'animatrice, où vous constatez des comportements déjà que vous trouvez hors limite, en tout cas qui dépassent la fonction et la responsabilité de l'animateur ou de l'animatrice, c'est ça ?
Voilà, exactement ça. C'est que au début, en fait, dès ma première expérience, même dans l'animation, j'ai constaté des comportements qui étaient très alertants, qui pouvaient prévenir un potentiel danger, mais sans aller vraiment dans le concret, dans ce qui est condamnable par la loi. Donc c'est assez compliqué. Et en fait, j'ai vu que ça se répétait. Et puis après, j'ai eu des retours, malheureusement, d'enfants, en fait, après les colonies de vacances. Même avant que je sois sur les réseaux sociaux, et encore plus quand j'ai commencé à faire des vidéos de prévention par rapport à ça sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai reçu des centaines et des centaines de témoignages d'enfants, d'adolescents qui avaient vécu à peu près tous les mêmes traumatismes et les mêmes, mêmes agressions sexuelles, viols, et j'en passe.
On aborde quelque chose de très sérieux, Anissa, et dont on parle très peu. C'est pour ça que je me félicite et je vous félicite pour ce que vous faites, mais je me félicite de vous entendre ce soir sur une radio où la moyenne d'âge est un peu plus élevée que votre public habituel sur TikTok. Mais il est vrai qu'on n'entend pas du tout parler, en tout cas très peu parler, de tous ces phénomènes de pédocriminalité. On a l'impression qu'en France, on est très mal à l'aise avec ça. Qu'est-ce que vous ressentez, vous ?
C'est un sujet tabou qui est énorme. Après, ces dernières années, avec la naissance du mouvement MeToo en 2018, ça a permis de libérer la parole par rapport à plein de sujets tabous, par rapport aux violences sexuelles, sexistes, etc. Et il y a le MeToo inceste qui est né. Il y a plein de choses qui font qu'on libère petit à petit la parole, mais ça reste un sujet tabou énorme, les violences sexuelles en général. Mais alors, quand ça concerne les enfants, c'est encore pire. Effectivement, dans le milieu d'animation, dans le milieu scolaire, c'est quelque chose qu'on n'aborde absolument pas, que ce soit au niveau de la prévention. On ne fait même pas de prévention, en fait, auprès des personnes, ou très peu alors, auprès des personnes qui travaillent avec les enfants. Et quand ça arrive, on n'en parle pas, tout simplement. Moi, je sais que c'est notamment une des choses qui m'énerve le plus, c'est que pratiquement tous les animateurs et animatrices qui sont allés en colonie d'assistance, qui ont fréquenté des endroits d'animation, ont déjà eu des retours de ce type-là, ont déjà vu des comportements alertants de la part de collègues et n'ont jamais rien dit. Et en fait, il a fallu qu'une personne avec un peu d'autorité lance un signal d'alerte pour que je reçoive plein de messages d'animateurs qui me disent « Merci, c'est vrai que moi aussi j'avais remarqué ça, mais j'ai rien dit, mais j'ai rien fait. » Donc ça fait des années en fait qu'il y a plein de personnes qui se rendent compte du problème et qui ne disent rien, et je trouve ça incroyable en fait.
Quels sont les comportements, et on en viendra après aux témoignages de victimes, d'enfants et d'adolescents qui se sont manifestés auprès de vous, mais concernant les animateurs et les animatrices aussi, parce que j'étais très étonné que vous souligniez à chaque fois le comportement d'animateurs et d'animatrices, des comportements qui sortent du cadre de la mission de ces animateurs et de ces animatrices. Quels sont les comportements qui vous ont choqué ou qui vous sont rapportés régulièrement ?
Régulièrement, et ce que moi j'ai pu voir, ça va être des animateurs, ça revient fréquemment, qui sexualisent le corps des jeunes filles et des jeunes garçons, qu'ils soient âgés de 12 à 17 ans.
Qu'entendez-vous par sexualise ?
Sexualiser, c'est-à-dire regarder par exemple une jeune fille de 14 ans comme si elle en avait, comme si elle en avait 25. En fait, c'est souvent sous le ton de l'humour. C'est-à-dire qu'on va avoir des animateurs qui vont rigoler entre eux en disant celle-là, 14 ans, mais bon, elle fait pas son âge, dans quelques années, je me la tape pour parler avec des mots crus. Et ça, c'est très, 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 très souvent, toujours sous cachet d'humour et de blagues, parce que c'est pas du tout des blagues qui sont appropriées. Et ça va être des animateurs aussi qui vont avoir des mains baladeuses, qui sont dans la piscine, qui vont être trop tactiles. Des animateurs, des animatrices qui vont demander le numéro de téléphone de certains jeunes, qui vont leur parler après la colo. S'ensuit du coup des animateurs qui se mettent en couple avec des jeunes durant la colonie de vacances.
C'est arrivé après, ça, vous l'avez constaté, des animateurs qui se mettent en couple avec des gamines ?
Oui, moi je l'ai constaté sur mon lieu de travail, j'ai vu des comportements de collègues qui m'inquiétaient. J'ai eu des retours pendant les colonies de vacances d'enfants sur place qui me disaient bah, moi j'ai eu écho de ça, je crois que l'animateur il est en couple. Alors, c'est très très compliqué. Et après, j'ai eu des confirmations après l'été en fait, après
oui,
l'écolo.
Oui. On va marquer une petite pause, Anissa, et on se retrouve dans une minute. Merci. D'accord ? À tout de suite. 23h20 sur Europe 1, vous êtes sur la libre antenne et vous pouvez bien sûr composer le 39-21. Julia, Florian et Laurent, notre réalisateur, vous attendent dans la régie du studio Coluche ici à Europe 1. Pour le moment, nous sommes avec vous, Anissa, vous évoquez un sujet grave, celui de la pédocriminalité dans les colonies de vacances. C'est vrai que, en fait, on peut se dire qu'il se passe beaucoup de choses, mais encore une fois, je m'étonne qu'on n'en parle pas et que ce soit une jeune femme comme vous qui, sur TikTok, tout à coup, parce qu'elle crée ce mouvement MeToo Animation, et tout à coup, les langues se délient. C'est quand même incroyable. Vous avez dû même, vous, être surpris par l'importance des messages que vous receviez.
Oui, c'est clair. Bah, moi, je suis aussi surprise que vous, à vrai dire, même si je suis à l'origine de ce mouvement. Je suis encore choquée des témoignages que je reçois. Je pensais évidemment qu'il y allait avoir de multiples personnes, de multiples témoignages, etc. Mais là, ça dépasse un nombre que j'aurais jamais imaginé. Et surtout, un public que je n'imaginais pas, dans le sens où moi, quand j'ai commencé à faire de la prévention par rapport aux violences sexuelles, dans les colonies de vacances, centres aérés, etc., enfin, auprès des enfants, je pensais avoir des retours de jeunes filles, jeunes garçons âgés de 16-17 ans qui avaient eu des amourettes et plus avec des animateurs et animatrices plus âgés, donc majeurs. Et je pensais évidemment recevoir des témoignages de pédocriminalité comme on l'imagine, c'est-à-dire quelqu'un, un adulte de 40 ans avec un enfant de 6 ans, parce que ça arrive aussi. Et je pensais avoir quelques cas comme ça, mais je ne pensais pas que la moitié des témoignages allaient être des cas de violences sexuelles sur enfants de 4-5 ans. Et ça, malheureusement, c'est la plupart des messages que je reçois, c'est des personnes qui ont été victimes très très jeunes. On n'est pas sur une relation biaisée par de possibles sentiments, parce qu'on a beaucoup tendance dans la société de maintenant à romantiser les relations entre personnes de 17 ans et personnes majeures depuis peu.
Oui, il y a quand même un mouvement très militant là-dessus. Je ne sais pas si vous en avez sans doute entendu parler. Beaucoup de jeunes gens de 20 ans, 21 ans revendiquent et militent sur le fait que envoyer des cœurs et avoir envie de faire l'amour avec une jeune fille de 15 ans, il n'y a rien de mal à ça.
Il n'y a absolument pas eu écho de ça, mais ça m'horrifie.
Je vais vous dire, encore la semaine dernière, on a reçu un message ici sur la libre antenne. D'ailleurs, c'est un message un peu hors contexte, mais d'une personne qui disait « Qu'y a-t-il de mal à envoyer des cœurs et à avoir envie de faire l'amour avec une jeune fille de 15 ans ?» Alors, comme c'était hors contexte, j'ai lu simplement ce SMS pour dire que il était hors contexte, mais que si cette personne avait envie d'en débattre, j'aurais été ravi de lui remettre 2-3 points sur les « i ». À 15 ans On le répète sur cette antenne, à 15 ans, une jeune fille, une enfant, c'est une enfant à 15 ans. Et à 20 ans, c'est pas la même chose. Donc que ça soit bien pour dit, même
pas,
si...
Bien sûr, c'est pas la même chose. Et puis le pire, il n'y a pas d'échelle de gravité, mais surtout ce qu'il faut rappeler, c'est que déjà, il y a des lois qui existent, et surtout qu'il y a des domaines qui font qu'il y a des règles supplémentaires. Et par exemple, dans le milieu de l'animation, dans le milieu scolaire, etc., il y a un cadre qui fait que la personne majeure a une autorité sur le mineur, qui fait qu'il n'y a pas de consentement, peu importe que là, ce soit 15 ans, 15 ans et demi, il n'y a pas de consentement possible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'animateur a son statut d'animateur ou a un statut de professeur, peu importe, il a une autorité de droit sur l'enfant.
Oui.
Et là, même une jeune fille ou un jeune garçon de 17 ans ne peut pas se prévaloir de son consentement.
Alors, vous avez lancé ce mouvement MeToo parce que vous est venu un témoignage que vous avez reçu d'une jeune fille que vous aviez eu vous-même en colonie de vacances. Et pour que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien comment ce témoignage vous a heurté et vous a inspiré, est-ce que vous pouvez me raconter ça ?
Ouais, bien sûr. Donc en fait, moi j'ai été, je suis animatrice depuis 4 ans. Et en fait, donc j'ai commencé à faire des vidéos de prévention sur TikTok, sur Instagram par rapport à ça. Et donc les vidéos ont beaucoup tourné. Et du coup, un soir, donc avant de lancer cette association, avant de lancer un signal d'alerte, j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de témoignages de jeunes filles, jeunes garçons qui avaient vécu des faits similaires. Et j'ai reçu un message du coup d'une jeune fille que j'avais déjà eue en colonie de vacances, donc qui m'écrit, qui écoute Anissa, j'ai vu ta vidéo, je sais pas si tu te souviens de moi, mais j'étais enfant dans telle colo, telle année, etc. Et en fait, il se trouve que bon, moi j'ai fait des colos avec beaucoup beaucoup d'enfants, donc il y a des enfants où, malheureusement on a du mal à se souvenir des têtes, des prénoms, etc.
Oui.
Et là, en fait, c'était vraiment une jeune fille dont je me souvenais très bien parce que c'était un groupe de jeunes filles très 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 gay, très jovial, très sociable, et du coup on s'en souvient facilement. Et donc là elle m'explique que son amie en fait dont je me souvenais très bien donc les mots qu'elle utilise c'est accoucher avec un de mes collègues durant la nuit aux toilettes,
Oui.
ce qui est évidemment un viol, c'est pas une relation consentie même si la jeune fille le pensait. Et en fait elle m'explique que sa copine pensait à l'époque avoir une relation amoureuse avec mon collègue qui était âgé de 24-25 ans, alors qu'elle en avait 14 ou 15,
Oui.
pas plus, pas moins.
24-25 ans, avoir envie d'une gamine de 14 ans, il y a quelque chose déjà de tordu dans tout ça. Moi, je veux bien que ces
Ah ouais,
personnages nous
c'est
donnent des
très,
explications.
très, très tordu. Et
Vous
puis
avez.
surtout que moi, ça m'a vraiment. Franchement, ce témoignage, mon cœur, il s'est brisé. J'en ai pleuré et je me suis dit, en fait, il y a tout un processus de remise en question. On se dit, mais en fait, là, moi, je suis partie dormir. On couche les gamins, on leur dit bonne nuit, on parle avec eux dans les tentes. Et bon, là, c'était un colo en tente. On parle avec eux dans les tentes, dans les chambres, etc. On pense aller se coucher avec des enfants qui sont en sécurité. Et en fait, tu apprends que ton collègue a rejoint une enfant dans les toilettes. Enfin, c'est horrible.
C'est horrible. Les estimations sont évidemment très difficiles à faire, mais en 2020, on estimait que 165 000 enfants étaient victimes chaque année de viols et de tentatives de viols. Donc on parle bien là de viols et de tentatives de viols, et on n'englobe pas dans ces chiffres les agressions sexuelles, c'est-à-dire tous les attouchements qui peuvent être commis dans un environnement comme celui que vous décrivez, Anissa, ou comme dans un centre de loisirs. J'ai mon frère, vous savez, qui est avocat et qui est régulièrement confronté à des histoires d'agressions sexuelles dans des colonies de vacances, dans des centres de loisirs, faits par des animateurs. Et je me posais cette question quand j'ai vu qu'on allait échanger ensemble ce soir. Pour être animateur dans une colonie de vacances, j'ai pas l'impression qu'il y ait une. Enfin, est-ce qu'il y a une formation? Est-ce qu'on demande quelque chose? Il faut un minimum de diplôme? Ou alors c'est un petit peu au petit bonheur la chance qu'on choisit l'équipe des animateurs et des animatrices?
Alors en général, de manière très 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 globale, il y a un diplôme à avoir. Un diplôme, c'est un brevet, c'est le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, donc le BAFA, qu'on peut passer à partir de 17 ans. C'est en 3 parties, donc c'est une formation qui, selon moi, n'est pas assez complète pour avoir le droit de travailler avec des enfants et d'avoir autant d'impact dans leur vie. Mais bon, le fait est que du coup, la première partie dure 1 semaine, la deuxième, c'est un stage de 2 semaines, et la troisième dure 1 semaine. Et ensuite, une fois qu'on a son BAFA, là, on peut postuler pour n'importe quelle colonie de vacances, centre de loisirs, etc. Mais il y a toujours une part de directeurs et de directrices qui, parfois, embauchent des animateurs qui n'ont pas le BAFA. Qui n'ont pas le BAFA et du coup, qui n'ont pas été formés à travailler avec des enfants. Bien que parfois, je ne pense pas que ça change quelque chose, vu le peu de choses qu'on apprend aussi au BAFA. Mais par exemple, quand on est en STAPS, il me semble que c'est à partir de la troisième année d'études de sport qu'on a une équivalence à partir de la L3,
En tout cas,
équivalence au BAFA.
c'est demandé. En tout cas, il y a quand même un niveau qui est demandé. On va marquer une nouvelle pause, Anissa, et vous restez avec moi. On se retrouve dans 1 minute. Il est 23h30 sur Europe 1 et nous continuons notre échange avec Anissa. Anissa qui est à l'origine du mouvement MeToo Animation. Ce mouvement qui vise à protéger ou en tout cas mieux encadrer ces colonies de vacances et les centres de loisirs. Alors, je vous parlais de ces animateurs accusés d'attouchement sexuel ou d'agression sexuelle que beaucoup d'avocats reçoivent régulièrement après l'été, puisqu'il y a pas mal de problèmes l'été. Mais vous voyez, l'autre jour, il y a un avocat qui m'a dit « ça fait deux fois que j'ai un gars qui revient pour la même chose ». Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas très regardant quand on engage les animateurs et les animatrices en colonie de vacances, Amissa ? Parce qu'il y a des personnes qui sont condamnées parfois ou qui sont, vous voyez, en procédure, accusées mais pas encore jugées. Et ces personnes-là peuvent quand même se retrouver à travailler aux proches d'enfants.
Ah oui, bien sûr, oui, clairement. Oui, bien sûr. Bah, après, déjà, il y a aussi un truc qu'il faut souligner, c'est qu'il y a beaucoup de violences sexuelles, donc d'agressions, de viols, qui ne sont pas signalées puisque la plupart des victimes ne portent pas plainte. Donc déjà, ça fait une grande part des agresseurs et agresseuses qui peuvent continuer à travailler avec des enfants. Et ensuite, le fait est que même si un animateur est signalé ou est mis en cause pour violences sexuelles, il y a toujours moyen de pouvoir l'embaucher. Il y a un site, en fait, qui existe où les directeurs entrent les profils des animateurs qu'ils vont avoir dans leur équipe.
Oui.
Pour avoir un retour en fait des administrations pour savoir si la personne en question est problématique, n'a pas le droit de travailler avec des enfants. Et auquel cas, le prénom de l'animateur en question ressort en rouge.
Oui.
Et indiqué qu'on n'a pas le droit de l'embaucher. Mais dans les faits, dans les possibilités, donc vraiment au niveau manuel, on peut tout de même cliquer sur embaucher sur le site et après ça envoie un signalement. Et après, il revient à certaines autorités de vérifier durant la colonie de vacances si l'animateur est embauché, de venir sur place, etc. Mais voilà, moi, je connais, je sais, parce que ça fait 4 ans que je suis dedans, qu'il y a des directeurs qui embauchent des personnes qui sont signalées par le site et ils n'ont jamais eu de retour et personne n'est venu vérifier s'il y avait un problème ou pas.
En tout cas, vous qui nous écoutez, qui êtes parents, grands-parents, on vous encourage bien évidemment à envoyer vos enfants en colonie de vacances parce qu'il n'y a pas plus belle aventure. Hein, Anissa, vous confirmez ce que je dis, mais comment prévoir... Pardon ?
J'ai dit oui, je confirme totalement ce que vous dites. Il ne faut pas en faire non plus la bête noire. Moi, j'ai été en colonie de vacances de mes 5 ans à mes 17 ans, et c'est les plus beaux moments que j'ai passés, mais il faut tout, et s'il y a des parents qui écoutent, et c'est bien parce que c'est pas forcément le public que j'ai, c'est le public que j'essaie d'avoir, c'est qu'il faut faire de la prévention auprès de ses enfants.
Exactement.
Avant la colonie de vacances, avant l'école, parce que, en fait, avant de les laisser à des adultes qu'on ne connaît pas, même des adultes en qui on a confiance, il faut faire de la prévention, et ensuite, il faut attendre un retour après la colonie de vacances, après ces moments-là, quoi, demander à son enfant comment ça s'est passé, et puis pousser plus loin le dialogue, parce que faut pas s'arrêter, hein. Oui, bon, j'ai pas trop aimé cet animateur ou cet adulte-là, il faut demander pourquoi, qu'est-ce qu'il a pas aimé, quel comportement il a trouvé bizarre. Enfin,
encouragez, vous qui nous écoutez, encouragez vos enfants à parler, en tout cas, expliquez-leur les choses simplement. Juste dites-leur que ils vont partir en colonie de vacances, mais que, comme vient de le dire Anissa, personne n'a le droit de les toucher, de les caresser, de les embrasser, et que surtout, il faudra le dire, et que si ils sont gênés pour le dire à vous, parents, ou à vous, grands-parents, il y a @MeTooAnimation. Alors, MeToo, hein, c'est pas M-I. Je vous l'appelle pour que sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, vous puissiez regarder quel est le travail d'Anissa. @, donc, M-E-T-2-O et Animation. Voilà, tout attaché, ça donne @MeTooAnimation. C'est Animation, enfin, je dis en anglais MeTooAnimation. C'est sur Twitter, c'est sur Facebook, c'est sur Instagram. Anissa a déjà lancé une pétition auprès de Papendiaghe, le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, et à Charlotte Caubel, qui est secrétaire d'État chargée de l'enfance. Cette pétition est déjà signée par 54 000 personnes. Elle prévoit, cette pétition, plusieurs mesures pour que le milieu d'animation lutte efficacement contre les violences sexuelles sur mineurs. Vous, parents, vous, grands-parents qui nous écoutez, je vous invite vraiment à vous rendre sur l'un de ces réseaux sociaux où vous pouvez retrouver Anissa, et où plein de choses vous seront expliquées. Et si vous avez du mal à croire aujourd'hui que nos enfants peuvent être en danger, je pense qu'une fois que vous aurez rejoint le travail d'Anissa, vous n'en douterez plus du tout. Merci pour votre intervention sur l'antenne d'Europe 1, Anissa, et bravo pour
votre
boulot. Et puis, je serai le premier à me rendre sur, sur Facebook, tiens. Voilà. On vous embrasse bien fort et courage
merci
à vous
beaucoup.
Et encore bravo, Anissa. Au revoir.
Merci, bonne soirée.
Au revoir.
Olivier Delacroix accompagne vos nuits.
23h36 sur Europe 1, c'est la Libre Antenne. Et je vous rappelle que la Libre Antenne, 7 jours sur 7, à partir de 23h, tous les soirs, c'est votre moment à vous qui nous écoutez. Si vous avez envie de nous parler, et peut-être de cheminer avec nous, de réfléchir à des solutions ou tout simplement parler, être écouté, eh bien nous sommes là. Pour vous, chers amis, 3921, pour nous écrire 739-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Et puis, il y a toujours libreantenne@europe1.fr, libreantenne@europe1.fr pour vos mails, et la page de la Libre Antenne Olivier Delacroix, Yann Moix, sur Facebook. On accueille Jennifer maintenant au 3921. Bonsoir Jennifer.
Bonsoir.
D'où nous appelez-vous ?
Pardon ?
D'où nous appelez-vous, Jennifer ?
Alors, moi, je vous appelle de ma région du Puy-en-Velay, dans l'Auvergne, dans le 43.
D'accord. Et quel âge avez-vous ?
Alors, moi, j'ai 38 ans. Je suis maman de deux enfants, dont Donovan, 15 ans, fin septembre, et Lola, qui va faire 7 ans le 19 septembre.
D'accord. De quoi voulez-vous nous parler, Jennifer ?
Alors moi, je suis là pour parler du placement abusif de ma fille Lola, qui va avoir 7 ans, que je ne connais absolument pas. Tout ce que je peux dire sur ma fille, c'est que j'ai servi alors de mère porteuse. J'ai connu Sébastien sur Pélus, hein, dans le 42, dans la Loire.
Oui.
Sébastien a 3 ans de moins que moi. Je connais Sébastien, donc il est complètement alcoolique, hein, il est alcoolique, dépressif.
D'accord, et vous pouvez me préciser qui est Sébastien, en fait, c'est le papa des enfants ou...
Sébastien, il est le papa, il est le bourreau de ma fille, il est prédateur sexuel, je
d'accord.
veux dire.
D'accord, alors excusez-moi, je vous ai interrompu, vous rencontrez Sébastien, donc dans la Loire, il a 3 ans de moins que vous, lorsque vous le rencontrez... Il est déjà alcoolique, il est déjà un petit peu...
Oui, il est déjà alcoolique, il a le bracelet, il a un bracelet électronique.
Oui.
Et donc, il est connu des services de police pour conduite en état d'ivresse, multirécidiviste, conduite sans permis, multirécidiviste.
Mm-hmm.
Donc, il en est à sa 3e fois de passer le permis pour la même chose par rapport à l'alcool. Mis à part ça, il est quelqu'un un peu, je dirais, mis à part ça, un peu sans histoire.
Oui.
Hormis l'alcool. Il a beaucoup d'amis sur Pélussin, beaucoup, beaucoup d'amis, et beaucoup d'amis sont des services sociaux. Voilà. Donc, il a beaucoup d'amis, donc des assistantes sociales qui sont des amis de sa maman.
Oui.
Il a une amie de sa maman aussi qui est une sage-femme libérale et qui fait des accouchements aussi sur l'hôpital de Vienne dans l'Isère.
D'accord. Ce qui veut dire en fait, vous allez me dire ce qui vous est arrivé parce que là, on prend Sébastien, on en parle, on a compris que sa maman et que par l'intermédiaire de sa maman, il avait beaucoup d'amis à l'ASE, sans doute, ou en tout cas dans le milieu de l'enfance. Mais que s'est-il passé, en fait ? Parce qu'on reprendra
alors,
sur Sébastien après.
Je rencontre Sébastien, je tombe très vite enceinte. Je rencontre Sébastien, il est déjà, quand je le rencontre, il est déjà en état d'ébriété. Il m'explique que pour le calmer, il faudrait qu'il ait un enfant, ça va le calmer. Ça va lui faire péter dans la tête. Enfin, il me demande tout de suite, je le connais, il me demande tout de suite de m'installer chez lui. Chose que je comprends pas trop bien. De fil en aiguille, je m'installe chez lui, les choses se passent bien, je tombe enceinte de ma fille. Et 15 jours avant d'accoucher, je n'avais absolument rien, c'est-à-dire pas de lit. pas de landau, pas de, je n'avais absolument rien, pas de biberon, pas de, je n'avais absolument rien, rien de rien. Je travaillais juste avant ma grossesse. Tout ce que je gagnais, ça allait sur le compte de Sébastien parce que donc Sébastien me menaçait que si je mettais pas l'argent que je gagnais sur son compte, il fallait impérativement que je dégage. Donc du coup, tout mon salaire allait sur son compte. Et du coup, il dépensait son salaire ainsi que le mien dans l'alcool. Je lui disais, Sébastien, je suis enceinte, dans 15 jours je vais accoucher. Il faudrait peut-être commencer à envisager à acheter quelques vêtements, enfin, de quoi coucher Lola, de quoi avoir un endo, enfin tout ça, quoi. Sébastien, ça lui parlait pas. Et donc, du coup, j'accouche de ma fille à Vienne. L'accouchement se passe bien. Voilà, ma fille naît donc du coup avec quelques soucis de poids en fait. Donc du coup j'ai la PMI qui vient de temps en temps à la maison, comme toutes les mamans après l'accouchement. Cette PMI, je vais citer son nom et son prénom, qui est très connu dans le 42, donc sur la Loire, qui s'appelle Madame Quéron, de son prénom, Nadine. J'insiste, Madame Quéron, si vous m'entendez sur cette radio, vous m'avez fait des problèmes, hein, Sika. Plein de familles du 42. Donc, du coup,
Attendez, dites-nous ce qui s'est passé avec cette dame, parce que vous ne pouvez pas, interpeller quelqu'un comme ça sur la radio sans m'expliquer ce qui s'est passé, Jennifer.
Alors, elle vient, cette dame qui est PMI, sur la Loire, sur le canton de Pélussin.
Oui.
Donc, du coup, cette dame, Nadine Quéron, était juste
compris.
Avant d'être...
On a compris comment elle s'appelait. Donc, cette dame.
Cette dame était donc... elle était donc PMI sur le canton de Pélussin. Et juste avant d'être PMI, elle était assistante maternelle. Et c'est elle qui avait fait passer les examens d'assistante maternelle à sa maman, à Sébastien.
D'accord.
Donc donc nous sommes dans la salle de bain, la maison, chez moi, et elle me dit que Lola n'a pas grossi, Lola n'a pas pris de poids. Donc du coup, elle me dit que il faut faire hospitaliser ma fille. J'en parle à Sébastien. Je lui dis, écoute, Sébastien. Il faut soit changer la marque du lait parce que c'est soit le lait qui ne va pas ou soit les tétines du biberon qui vont pas. J'ai déjà eu un enfant, je sais ce que c'est. Non. Il me demande de faire hospitaliser ma fille. Et donc, du coup, entre-temps, il appelle sa maman et je comprends que sa maman est très, très amie avec cette dame. Et donc de là, on me force la main à la faire hospitaliser. Donc le soir même, Lola est hospitalisée donc à l'hôpital de Vienne. Et donc j'arrive donc à l'hôpital de Vienne ça se passe très très bien. Et donc juste la veille, donc ça fait, je suis restée un mois et demi à l'hôpital de Vienne dans le 42.
Oui.
Et donc du coup, je suis restée un mois et demi et sans, je précise, je suis restée un mois et demi à l'hôpital avec ma fille sans manger. Hein.
Oui.
Parce que c'est Sébastien qui se venait aux besoins du couple, donc du coup c'est lui qui devait subvenir financièrement. Et Sébastien n'a jamais été là pendant un mois et demi, il n'a pas vu sa fille. Donc, du coup, je me suis occupée de ma fille pendant un mois et demi. Et le jour où je devais sortir donc de l'hôpital, où ma fille avait repris suffisamment de poids pour sortir de l'hôpital, dans la salle de bain, il y a une salle de bain où je peux prendre le bain de ma fille. Je décide donc du coup de laver ma fille, Donc, je fais couler l'eau en faisant attention que l'eau soit pas trop chaude. Je déshabille ma fille, je la savonne. Et au moment de passer ma fille dans le bain pour la rincer, oui. J'ai une auxiliaire puère qui arrive dans la chambre et qui me dit « Attendez, Madame Plassard, on va mettre un thermomètre de bain. » Parce qu'en fait, moi, dans la chambre, je n'avais pas emmené mon thermomètre de bain. Je me suis dit « Dans la chambre, il doit y en avoir. » Et en fait, il n'y en avait pas emmené. J'ai quand même fait attention au bain. Je suis quand même maman, je suis quand même consciente.
Oui.
Je sais ce que je fais. Donc, j'avais bien fait attention au bain avant de mettre ma fille dedans. Sinon, je ne l'aurais pas mise dedans et je ne l'ai pas mise dedans. Et donc, du coup, l'auxiliaire puère arrive avec son thermomètre de bain dans la chambre. Et là, elle met le thermomètre en m'expliquant que bah, l'eau est affichée entre 40 et 42 degrés sur le thermomètre. Et moi, je suis derrière elle, donc à ce moment-là, donc je ne vois pas le thermomètre de bain. Et elle prend le thermomètre de bain tout de suite, hein, elle ne me laisse pas le temps de regarder. Donc elle prend le thermomètre, elle le remet dans sa poche, elle m'arrache Lola, donc ma fille, de mes bras. Elle la prend, Lola est nue à ce moment-là, elle court dans le service avec ma fille qui est complètement nue. Et dans le service, elle est savonnée, donc elle est quand même un petit peu, j'ai envie de dire, humide, un peu mouillée, quoi. Donc, on court, il y a de l'air, il fait froid. Elle prend même pas le temps de prendre une serviette, rien du tout. Elle prend ma fille pour aller prévenir la chef du cadre pédiatrique. Et la chef du cadre arrive, elle va prévenir donc le pédiatre. Le pédiatre prévient son second. Tout ça arrive en même temps, machin, on se rend compte de l'erreur. Là, on m'accuse de quelque chose que je n'ai pas commis. On me dit que j'ai brûlé ma fille, que je l'ai mise dans l'eau, que l'eau était trop chaude, alors que je n'ai pas mis ma fille. Peut-être l'eau était trop chaude, mais je ne l'ai pas mise dedans, c'était une erreur. Ça arrive peut-être à tout le monde de faire une erreur, mais quoi qu'il en soit, je n'ai pas mis ma fille dedans, je ne l'ai pas mise dedans. C'est une erreur, c'est un accident, mais je ne l'ai pas mise dedans. Et de là, on décide donc d'appeler la famille, on décide d'appeler les services sociaux, tout ça. Et ils font une réunion entre eux et ils décident de m'enlever ma fille.
Ils décident de vous enlever votre fille?
Oui. En fait, parce que mon fils, issu d'une union précédente, mon fils était placé aussi à ce moment-là. Donc, en fait, ils se sont servis du placement de mon fils et ils se sont... ils se sont servis de ma faiblesse aussi parce que bah, j'étais toute seule, parce que bah, comme j'étais faible à ce moment-là, j'avais personne, je ne pouvais pas me défendre. Donc, du coup, pour eux, le fait que mon fils soit placé et que je sois faible à ce moment-là, pour eux, c'était du pain béni. Et donc, du coup, on décide de m'enlever ma fille. On décide les choses avec Sébastien. Enfin, les services sociaux décident des choses avec Sébastien. Donc, Sébastien demande à l'hôpital que je ne puisse plus jamais approcher ma fille. De là, donc, je n'ai plus le droit de prendre ma fille dans les bras, je n'ai plus le droit de la toucher. À ce moment-là, je n'ai le droit de voir ma fille qu'au travers des barreaux de son lit. On enlève ma fille de sa chambre, on la met dans la chambre qui est sous surveillance, qui se trouve à côté du bureau des auxiliaires puères. Je n'ai pas le droit de la prendre, j'ai le droit de la voir qu'au travers des barreaux de son lit. Je me dis, non, mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est aberrant pour un simple accident. Enfin, qu'on me fasse ça, c'est quand même... c'est disproportionné. Enfin, j'essaie de m'expliquer, mais on ne veut pas m'écouter. Enfin,
est-ce que vous, à ce moment-là, Jennifer, vous n'avez pas mis votre fille dans l'eau, mais pour vous, comme ça, l'eau était trop chaude. Est-ce que vous avez vu... vous avez estimé qu'elle avait raison, la puéricultrice. Après, on va parler de son comportement. Mais de votre point de vue, c'était trop chaud, ce bain, ou pour vous, tout était normal?
Non, non, non. En fait, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, en déshabillant ma fille, j'ai bien fait attention de l'eau J'ai quand même fait attention que l'eau ne soit pas trop chaude.
Oui.
Je suis quand même pas, je suis quand même pas inconsciente. J'ai quand même eu un enfant avant. Donc, j'ai bien fait attention à la température du bain.
Oui.
J'ai fait attention. Je suis quand même pas inconsciente d'aller brûler, d'aller ébouillanter un enfant, enfin surtout un bébé. Quand même pas stupide à ce point-là.
Non, mais je ne vous ai pas dit que vous étiez stupide du tout, hein, Jennifer. Je vous demande si, vous savez, parfois, les robinets peuvent être déréglés et c'est plus chaud que
alors,
ce qu'on pensait.
Alors, je vais expliquer une autre chose. C'est que dans les maternités, les mamans, si vous m'écoutez, dans les hôpitaux, aussi bien que dans les maternités, les hôpitaux pédiatriques, dans les services pédiatriques, dans les hôpitaux, dans les maternités, l'eau est bloquée à 37 degrés pour justement éviter que ce genre d'accident arrive.
D'accord. Donc là, est-ce qu'elle était bloquée à 37 degrés dans cette maternité ? Non.
Oui. Et, mais je ne le savais pas.
Oui, mais bon, de toute façon, si elle est bloquée à 37 degrés, c'est bien, c'est bon pour le bébé.
Oui, donc il est impossible de pouvoir ébouillanter un enfant, enfin un bébé.
D'accord, donc...
Il est complètement impossible d'ébouillanter un bébé.
Donc ce que vous dites, vous, c'est que l'auxiliaire a inventé ces 40, 42 degrés et finalement, elle vous a accusé de quelque chose qui n'existait pas.
C'est ça, j'ai été accusée à tort en fait.
D'accord, et pour ça, on vous a enlevé votre fille.
Oui.
En vous faisant passer pour quelqu'un qui n'était pas responsable.
C'est ça. Et en fait, l'auxiliaire donc, qui a été inventé ça, l'auxiliaire était une amie de sa maman quand j'ai accouché de ma fille, mais je ne l'ai pas reconnue parce que je ne l'ai pas vue longtemps. Et du coup, voilà, c'était la copine de sa maman que je n'ai pas reconnue sur le coup. Et c'est qu'après que je l'ai reconnue, j'ai dit mince. Et du coup, voilà.
Donc ça veut dire que cette dame que vous avez appelée tout à l'heure à maintes reprises a des liens particuliers avec la mère de Sébastien.
Alors, il y a eu Madame Quéron qui était PMI, donc sur le canton de Pélussin. La sage-femme qui travaillait, qui travaille à l'hôpital, qui est aussi une amie de sa maman. Enfin, il y avait beaucoup de. Elle avait beaucoup de gens bien placés pour. Je vous expliquerai après, par la suite de l'histoire. La maman de Sébastien, et ainsi que les frères de Sébastien, ne m'aimaient pas. Ils ne me voulaient pas dans leur famille.
D'accord.
Et la maman de Sébastien, ce qu'elle voulait, c'est que quand elle a su que j'attendais une petite fille, cette maman, elle avait eu 3 enfants et elle voulait impérativement assouvir à son désir d'avoir une petite fille. Et ben, je tombais à pic.
D'accord.
Je tombais à pic. Et quand est arrivée donc, l'histoire du bain de ma fille et qu'on m'a enlevé ma fille, un jour, le lendemain où je suis. Le lendemain où on m'a enlevé ma fille et le lendemain où Sébastien est venu prendre sa fille, je suis allée chez Sébastien. Et donc, du coup, j'avais voulu aller parler à Sébastien. Et du coup, ça s'est mal passé. Enfin, Sébastien n'était pas dans son état normal. Il a voulu en découdre. Il a voulu me
vous
taper.
Vous frapper, d'accord.
Oui. Et donc, du coup, quand j'ai voulu aller lui parler, parce que quand est arrivé l'accident de ma fille, il n'était pas là. Donc, du coup, j'ai voulu un petit peu aller lui donner mon son de cloche. Qu'il entende ce que moi j'ai à dire. Pour
mais
que
il n'a pas voulu vous écouter.
Non.
Jennifer, je voudrais vous demander, est-ce que vous dépendez de la MDPH ou vous avez vous avez quelque chose de particulier pour avoir été manipulé comme ça ou vous êtes très crédule?
Non, très crédule. Enfin, je n'ai rien, je n'ai pas la MDPH.
Vous ne souffrez pas de quoi que ce soit?
Absolument pas.
D'accord.
Absolument
c'était,
pas.
C'était bon de le préciser parce qu'il y a plusieurs SMS qui posaient la question. Si vous voyez, vous auriez pu avoir une naïveté parce que pour tout un tas de choses, pour des troubles, par exemple.
Non, par contre, j'ai été très naïve.
D'accord. Vous êtes plutôt quelqu'un qui fait confiance.
C'est ça.
Il y a quelque chose, parce qu'on va avancer là-dessus, parce que bien évidemment, Jennifer, il y a quelque chose qui ne va pas. Depuis 7 ans, vous n'avez pas revu votre fille.
Alors, je l'ai vue quelques fois en visite médiatisée.
Oui.
Alors, je la voyais à Trait d'Union, à Vienne. Moi, j'habitais Saint-Chamond, mais entre-temps, j'avais déménagé. Je me suis éloignée donc, de la région du 42, puisque je n'avais plus le droit d'y être.
Oui, pourquoi donc, du coup, pourquoi vous n'aviez plus le droit d'y être?
Par rapport aux histoires que j'ai eues avec le géniteur de ma fille, enfin le bourreau.
C'est-à-dire, pourquoi si vous n'aviez plus le droit d'y être, il y avait bien une raison. Que s'est-il passé? Pourquoi?
Alors, en fait, quand Lola est sortie de la maternité, qu'il a récupéré, que le géniteur, enfin c'est un bourreau, enfin moi j'appelle pas ça un papa, je suis désolée. Donc il a récupéré, Sébastien a récupéré ma fille.
Oui.
Quand il est rentré chez lui, c'est ce que je vous expliquais.
Oui.
J'ai voulu m'expliquer avec lui. Et en fait, il a voulu me frapper.
Oui.
Et donc du coup, il a voulu me frapper, il a voulu me casser une chaise sur la tête.
Oui.
Il a voulu m'impressionner, donc en fait, il m'a fait reculer avec sa chaise jusqu'à sa cuisine.
Mmh.
Et en fait, sur la gazinière, il y avait un opinel qui était posé sur la gazinière. J'ai pris l'opinel, je lui ai dit « Maintenant, Sébastien, tu poses ta chaise. » J'ai seulement voulu me défendre.
Mmh.
Je lui ai dit « Tu poses ta chaise, parce que je lui ai dit, si tu poses pas ta chaise, aïe, aïe, aïe. » Je lui ai dit « Va t'arriver malheur. » Je lui ai dit « Regarde ce que tu es en train de me faire, mais t'es fou, toi, de m'accuser à tort comme ça, mais t'es pas bien, mais t'es pas net dans ta tête. » Je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et puis, en fait, Sébastien, bah, je le connaissais pas. J'ai pas pris le temps de le connaître. J'ai été naïve et manipulée. Et donc, du coup, il a posé sa chaise. J'ai posé l'opinel. Je lui ai demandé de se calmer. Je me suis approchée vers lui pour le prendre un peu dans mes bras, pour le calmer. De là, il m'a pris par le colbac. Il m'a poussée sur le palier de sa porte. Il a voulu me mettre une tarte. J'ai pu esquiver en reculant. Moi, je me suis approchée pour lui dire la première, c'est pour moi. La deuxième, c'est pour mon fils. Et Sébastien, rappelle-toi, ce que tu es en train de me faire, tu vas me payer.
Vous lui avez mis des coups, donc.
Oui, je lui ai mis deux claques, hein, mais voilà,
alors,
c'est tout.
On va marquer une pause, comme ça on va reprendre un petit peu nos esprits et on va continuer cette discussion après. D'accord? Vous restez avec moi?
Ok.
À tout de suite, Jennifer. Il est minuit passé de 4 minutes et si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes bien chez vous. La libre antenne d'Europe 1, 7 jours sur 7, de 23h à 1h du matin. Nous sommes ensemble pour vous écouter, chers amis, pour cheminer et pour que vous soyez entendus. Déjà parler, déposer, quelque chose comme Jennifer ce soir qui nous raconte le placement de sa petite fille, en tout cas de ce bébé qu'elle n'a plus trop vu depuis 7 ans. Jennifer, vous en étiez au moment où vous attrapez un opinel dans la cuisine et qu'il y a Sébastien, hein, c'est ça, qui vous menace d'une chaise. Vous le saviez qu'il fallait, dans n'importe quel cas, il ne faut jamais se saisir d'un couteau, Jennifer.
Oui, je sais bien, mais il se montrait violent et très agressif envers moi.
Je me doute.
J'ai eu peur, j'ai seulement voulu me défendre.
Voilà, et sans que vous me racontiez la suite des événements, moi je vais vous la raconter. Ce qui s'est passé, c'est que vous lui avez mis deux claques, comme vous me l'avez dit. Je pense que Sébastien, lui, tout à coup, il est redescendu. Et puis, il s'est dit, tiens, je vais tirer bénéfice de cette situation. Il y a les empreintes sur l'opinel. Elle vient de me coller deux claques. Dès qu'elle va partir, je vais aller faire constater les marques sur ma figure, pour peu que vous lui en ayez fait. Je vais dire qu'elle m'a menacé avec un couteau. Je vais faire constater qu'il y a les empreintes de la mère de mon enfant sur l'opinel. Et puis, voilà, Jennifer, condamnée, interdit du 42.
Il a bien joué, j'ai mal joué.
Exactement, voilà. Exactement. C'est alors, ça. Si je le dis, c'est que, vous voyez, en même temps, on est dans un truc où vous avez raison. Je dis souvent ici, sur cette antenne, que les hommes sont plus forts que les femmes et que c'est tellement facile de taper sur une femme, parce que physiquement, un homme est plus fort. Là, il brandissait une chaise. Bien évidemment que c'était dangereux et sûrement très impressionnant pour vous. Mais voilà, d'une situation comme celle-là, vous étiez dans l'émotion, sans doute de la maman, hein, puisque une mère, c'est pas la même chose qu'un père, une mère. Même si des pères vont bondir en m'écoutant ce soir, je suis père moi-même. J'aime ma fille plus que tout au monde, mais je sais que sa mère l'aime d'une manière tellement entière, parce qu'il y a quelque chose qui sépare les hommes des femmes, c'est que les femmes ont porté cet enfant en elles et que les émotions sont décuplées.
C'est ça.
Et c'est ce que vous avez vécu.
C'est ça. Vous l'expliquez à merveille.
Je trouve très dur que cela fait 7 ans que vous n'ayez pas vu, en tout cas, pas profité de votre enfant. Je trouve ça d'une tristesse infinie et je trouve ça tellement violent.
Ouais.
Tellement violent.
Ça fait 7 ans, Olivier, que je mange plus, je dors plus. Je n'ai absolument plus envie de rien. J'ai plus envie de travailler.
Je comprends.
Plus envie de rien.
Mais est-ce que durant ces 7 ans, vous êtes repassé devant un juge ou des affaires familiales? Est-ce que vous avez été accompagné par au moins un avocat?
Non. La dernière fois que je suis passée devant le juge des enfants, c'était en 2015 et je ne suis plus jamais repassée devant le juge des enfants.
Pourquoi, Jennifer? Vous n'avez pas demandé, vous n'avez pas fait constater que votre situation s'est dégradée?
J'ai essayé de me faire entendre, on n'a pas voulu m'écouter. Sébastien a donc aussi demandé une audience au juge des affaires familiales.
Oui, pour obtenir la garde exclusive, je suppose.
Et l'autorité parentale exclusive que je n'ai plus.
Ah putain, pardon.
Je peux redemander maintenant l'autorité parentale exclusive.
L'autorité parentale. Vous ne pouvez pas demander l'autorité parentale exclusive. Ça, c'est accordé. À ce moment-là, ça a été accordé à Sébastien, sans doute, parce que la justice a estimé que, parce qu'il ne vous connaissait pas, mais que vous étiez quelqu'un de violent, que vous étiez une menace pour cet enfant.
C'est ça.
Et donc, aujourd'hui, vous avez sans doute le droit, Jennifer, de redemander à nouveau l'autorité parentale, ce qui vous rend à nouveau responsable.
Oui, mais il faut l'accord de monsieur pour pouvoir récupérer l'autorité parentale. Il est obligé d'être là, et moi, je ne peux pas l'affronter. Je ne peux plus l'avoir en face de moi. Je ne peux plus.
Jennifer, je vous pose une question. Vous voulez récupérer votre fille?
Oui.
Vous voulez revoir votre fille?
Oui.
Alors, arrêtez de me dire « je ne peux plus l'affronter, je ne peux plus l'avoir en face de moi ». Parce que si vous voulez revoir votre fille, il va vous falloir travailler sur ça.
En fait, c'est que j'ai peur de l'affronter, lui.
L'affronter, vous n'aurez pas à l'affronter. On n'est pas dans un combat de boxe, dans l'octogone, là. On va être devant un juge. Vous allez être devant un juge. Vous pouvez vous faire accompagner avec l'aide juridictionnelle.
Je vais continuer à aller jusqu'au bout de mon histoire, Olivier, si
allez-y.
Vous me permettez.
Mais on n'a plus que 5 minutes, donc allez vite, s'il vous plaît.
Ah, alors, Sébastien m'a fait aller en prison pour ça, pour la menace au couteau, tout ça.
Un an de prison ?
J'ai été en prison, j'ai fait... j'ai été en... Comment on appelle ça ? En mandat de dépôt. Je suis restée 2 jours en prison pour...
Avant d'être jugée, en comparution immédiate ?
Avant d'être jugée. Je suis restée 2 jours en prison, je suis rentrée le 7 décembre 2015 et j'en suis ressortie le 9 décembre 2015. Oui. Donc c'est le JLD qui m'a fait aller en mandat de dépôt.
Oui.
Et le substitut du procureur demandait 8 mois ferme à la comparution.
Immédiate ou quelques semaines plus tard?
Non, immédiate.
D'accord, et vous avez été incarcérée à la barre?
Non, du coup, j'ai été... on m'a mis du sursis, du coup.
Donc, vous n'avez pas été en prison un an? Vous n'avez pas fait
un an
en prison?
Non. D'accord. J'ai fait que 2 jours. Mais la substitut du procureur demandait 8 mois ferme. Heureusement, j'ai eu un bon avocat et je m'en suis tirée avec un an de sursis et un an de mise à l'épreuve. Mais ça a recommencé derrière. Et en tout, je me suis tirée pour... j'ai fait 6 ans de sursis en tout.
6 ans de sursis, vous avez repris 5 ans de sursis derrière?
Oui. Parce que Sébastien, il portait plainte chaque fois pour des trucs. Il disait que je faisais des menaces alors que je n'étais plus en contact avec. Mais enfin, il trouvait toujours...
Il nous reste très peu de temps. Alors, je vais vous expliquer quelque chose, Jennifer. c'est qu'à partir de maintenant, si vous voulez vraiment revoir votre fille, parce qu'elle a 7 ans maintenant, donc c'est une petite fille, il va vous falloir, c'est ce que je vais vous donner comme conseil, hein. Maintenant, vous êtes grande, vous prenez mes conseils ou pas, mais je vais vous conseiller de mettre le passé maintenant derrière vous, devant, parce que déjà derrière, il n'y a que des choses moches.
Mais en fait, le truc, c'est que Sébastien campe sur
ses positions.
Oui, là, il campe sur ses positions en disant j'ai ébouillanté ma fille. C'est pas j'ai voulu, c'est j'ai ébouillanté ma fille.
Non, mais aujourd'hui, j'ai mis faire. Aujourd'hui, vous me dites que vous pouvez retourner devant un juge pour demander à nouveau.
Oui, alors ma fille, elle a été placée pour mauvais traitement parce que Sébastien a été frotté des orties sur la lunette de ma fille lors de parce que c'est lui qui en avait la garde. Donc du coup, ma fille, j'étais en contact avec sa compagne avec qui il a une petite fille aussi et qui m'a donc venue me raconter ces choses-là.
Okay.
Et ma fille
a été victime d'attouchement de la part de son père. Bon.
Et de son beau-père.
Alors, justement. Le passé, c'est le passé. Ce que j'entends par là, c'est que ce qui s'est passé avec Sébastien, vous le savez, entre vous, c'est terminé.
Complètement.
Bon, il y a de la haine. Bon, c'est mais ça. La haine même, j'ai envie de vous dire qu'elle vous aidera en rien. Lui.
Ah non, mais c'est lui qui s'en laisse.
Oui,
c'est
oui,
lui
mais
qui s'en aidera.
Écoutez-moi,
en rien.
Moi, je vous parle de vous, moi, ce soir. Je ne vous parle pas de lui. Lui, on le met de côté. Ce qu'il fait, ce qu'il pense, on s'en fout. D'accord ?
C'est ça.
Vous, si vous voulez récupérer votre fille, vous allez mettre tout ça de côté, derrière vous, même si c'est difficile ce que je vous demande. Mais
c'est ce que je fais.
Demande, c'est parce que si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté pour récupérer votre fille, comment s'appelle-t-elle ?
Lola.
Lola. Si vous avez envie de revoir Lola, si vous avez envie de partager des moments avec votre fille, apprendre à la connaître, parce que cette petite aujourd'hui,
alors, cette petite,
Finir, s'il vous plaît. Cette petite, aujourd'hui, elle a peut-être envie de connaître sa mère, hein ?
Oui.
Elle a peut-être envie de passer des moments avec vous plutôt que... Bon, peut-être que dans cette famille d'accueil, elle est bien, hein ? On la protège, elle est peut-être heureuse. Mais
alors,
dans sa
ma fille
tête,
elle est placée dans un foyer.
En plus. Donc, vous croyez qu'elle est heureuse dans un foyer ?
Non, mais non. Je pense qu'elle est quand même mieux là-bas que chez son
ça,
papa.
Ça, c'est certain que si son père lui faisait ses horreurs, c'est sûr qu'elle est mieux dans le foyer. Maintenant, moi, je vous dis, mettez ces choses-là, d'adulte à adulte, là, toute l'embrouille avec votre ex, mettez ça derrière vous. Et maintenant, suivez le chemin normal, le chemin calmement, le chemin où, au bout du chemin, il y a Lola, que vous aurez peut-être de temps en temps au début. Mais plus ça ira, plus ça se passera bien, plus vous aurez Lola. Plus ça se passera mal, vous verrez plus Lola. Vous savez, l'équation, elle est simple. Souvent, j'évoque ici les dysfonctionnements de l'ASE. Là, on n'est pas dans du dysfonctionnement. On est au début de l'histoire, dans un dysfonctionnement, par rapport à cette histoire de bain trop chaud et les accusations sûrement mal fondées que vous avez failli ébouillanter votre fille. Mais ça encore, c'est du passé. Et malheureusement, ce qui est arrivé, Jennifer. Et on ne pourra pas remonter tout ça.
Je continue de ne pas voir ma fille, quoi.
Mais si vous avez envie de voir votre fille, c'est ce que je vous ai dit. Respirez bien, essayez de vous maintenir dans le calme et de passer les étapes qu'il va vous falloir passer.
C'est ce que je fais, Olivier.
Très bien. Très bien. Donc, Sébastien, tout ça, arrêtez même d'en parler du Sébastien. Arrêtez même de dire aux gens qui vous aident « Il m'a fait ci, il m'a fait ça, puis j'ai pris l'opinel. » C'est terminé, tout ça. Si vous voulez revoir Lola, si vous voulez construire quelque chose avec votre enfant, il va vous falloir virer toute cette colère et tout ce... Vous voyez, tout ce qui vous empoisonne encore. Parce que je sens que vous allez essayer de le faire, mais depuis qu'on échange, Jennifer, je sens encore beaucoup de colère et beaucoup de rancune vis-à-vis de votre belle famille et Sébastien.
Ouais, un peu parce que j'ai été manipulée, parce que j'ai été naïve.
Mais oui, mais ça, je vais vous dire, malheureusement, comme je vous ai dit, c'est arrivé. Mais maintenant, si vous avez envie de retourner les choses, la meilleure manière, Jennifer, de leur rendre la monnaie de la pièce, c'est de vous comporter en maman responsable.
Et de oui, faire... c'est ce que je fais, voilà. je me tiens au calme, je me tiens loin d'eux. Moi, je ne veux plus rien savoir de ces gens-là. Je veux plus.
Voilà. Alors, est-ce que, pour finir, est-ce que vous avez l'aide juridictionnelle ou vous avez un avocat
oui,
qui...
Oui, bon. Oui, mais j'ai une avocate qui ne fait rien. J'ai une avocate à l'aide juridictionnelle, mais vous savez, les avocats à l'aide juridictionnelle...
C'est pas facile. C'est
pas facile. Ça vaut pas grand-chose. Bah, ça vaut rien.
C'est-à-dire que les avocats à l'aide juridictionnelle, on les paye pas beaucoup non plus, vous savez.
C'est ça.
Donc, ils ont besoin de manger comme tout le monde, les avocats, vous savez. Donc, mâchez-lui un peu le boulot, c'est-à-dire allez demander comment, quelle démarche vous devez faire pour à nouveau vous trouver devant le juge et pour prouver que vous êtes capable aujourd'hui de commencer à construire avec Lola. D'accord ?
Alors, je vais terminer pour vous dire que j'étais en contact avec Sosa. Je ne sais pas si c'est sa compagne, son ex-compagne, enfin, c'est tellement confus entre eux. Donc, elle m'appelait des fois pour me passer ma fille quand lui, il avait le dos tourné. J'ai eu ma fille quelques fois au téléphone, le contact se passait bien. Ce week-end, elle voulait que j'aille chez elle voir la petite pour essayer justement de me coincer avec lui. Et du coup, j'y suis pas allée. J'ai préféré jouer prudence.
Eh ben, vous avez bien fait. Ouais. Mais j'ai pas très bien compris. C'est son ex ou j'ai pas compris ce que vous
alors,
dites.
En fait, ils sont plus ensemble. Ils ont une petite fille aussi en commun.
Oui.
Donc du coup, ils sont plus ensemble parce que c'est le feu de l'amour entre eux, en fait.
D'accord.
Je t'aime moi non plus. Ils sont ensemble.
Comment ça se fait que vous êtes en relation avec cette femme-là?
Parce que c'est elle qui est venue me trouver sur Messenger.
Arrêtez de répondre à cette femme-là.
Oui, oui.
D'accord? Tout ce qui est en rapport avec lui, arrêtez. D'accord?
Oui.
Comportez-vous en maman responsable, Jennifer.
Oui, oui, oui.
En plus, j'entends que vous avez l'envie et que vous pouvez très bien le faire.
Oh, oui.
Bon, il vous arrive assez de galères pour savoir ce que c'est que suivre le bon chemin et suivre le mauvais. Hein? Bon, alors, concentrez-vous sur vous. Voilà, c'est ça.
Oui, c'est ce que je fais, Olivier.
Bon,
c'est ce que je fais.
Très bien. Bah, écoutez, je vous souhaite bon courage et n'hésitez pas à me tenir
merci
au
Olivier,
courant.
Merci, de m'avoir écouté.
Je vous en prie. Et je vous embrasse.
Et si ça a pu aider d'autres mamans, battez-vous les mamans, battez-vous, lâchez rien.
Bah, vous ne lâchez rien, Jennifer. On vous embrasse. Au revoir.
Au revoir, Olivier. Merci.
On accueille Aurélia maintenant sur la libre antenne d'Europe 1. Bonsoir Aurélia.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir.
Je vous remercie. Je vous remercie infiniment de m'accueillir.
Je vous en prie.
Et d'autant plus que mon histoire est totalement ridicule par rapport à celle de Jennifer.
Il n'y a pas d'histoire ridicule, Aurélia. Je suis certain qu'on va vous écouter avec attention et qu'on ne trouvera absolument pas votre histoire ridicule, d'autant plus que moi, je sais un petit peu de quoi vous allez me parler. Et c'est loin d'être ridicule. Donc, vous savez, il faut, et ça, je le dis pour toutes celles et ceux qui nous écoutent ce soir et qui un jour décrocheront leur téléphone, peut-être qu'ils ne le savent pas encore, mais un jour, ils le feront. Il n'y a pas d'histoire, il ne faut pas comparer les histoires des uns et des autres parce que, tout simplement, nous sommes toutes et tous uniques en notre genre. Il n'y a qu'une Aurélia, qu'une Jennifer, qu'un Florian, qu'un Laurent, qu'une Julia, qu'un Olivier. Et nous sommes uniques en notre genre. Donc, obligatoirement, nos histoires ne peuvent être comparées. En tout cas, ici, on ne les compare pas. Et on va vous écouter. De quoi vous voulez nous parler, Aurélia ?
En fait, je vis... Je n'ose pas... Enfin, j'allais vous dire un enfer. C'est un grand mot.
Ça concerne votre petite fille.
Voilà, j'ai ma fille qui a 10 ans.
Oui.
Le jour de la rentrée, en fait, c'est depuis la rentrée. Le jour de la rentrée, nous avons appris qu'il y aurait un voyage scolaire.
Oui.
Et du 26 septembre au 6 octobre.
Oui.
Ma fille, lorsqu'elle a appris ça, tout de suite, m'a dit avoir tout de suite pleuré et a refusé d'y aller. Moi, j'ai essayé de la convaincre. Je lui ai montré l'endroit, c'était en Bretagne. Je lui ai montré où c'était. Je lui ai dit que ça pourrait être sympa. Puis j'ai attendu quelques jours. Il y a son tonton qui est à côté, enfin qui est à Rennes.
Oui.
Et pour la rassurer, je lui ai dit s'il y a un problème, il viendra te chercher. Et elle me dit non, non, je veux maman. Et ma fille, enfin, a vécu d'énormes traumatismes. Alors déjà, c'est une adoption GPA. C'est un peu étrange.
Oui, c'est la première fois que j'entends ça. Dites-moi ce que ça veut dire.
En fait, avec mon compagnon, nous n'arrivions pas à avoir de bébé.
Oui.
Et donc, j'ai fait appel à un monsieur qui était au Cameroun, qui se chargeait de la protection de l'enfance. Et il a rencontré une femme qui venait de tomber enceinte, qui ne pouvait pas garder le bébé. Et elle nous a choisis.
D'accord.
Et donc, ce qui fait que c'est pour ça que j'emploie ce terme, parce qu'en fait, j'ai suivi la grossesse. J'ai été prévenue dès que ma fille est née, enfin, parce qu'elle est née quasiment un mois plus tard. Et je lui ai envoyé de l'amour tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à ce qu'elle arrive à Paris, ça a mis énormément de temps à cause des lois françaises. Et elle est arrivée à 2 ans et demi.
Mmh.
Alors déjà, c'est la première chose. À 5 ans, elle a perdu son papa brutalement.
Oui.
La semaine d'après, notre chien. Quelques mois plus tard, son papy, mon papa.
Oui.
Et après, il y a eu la chienne de mes parents et ma maman l'année dernière. Et ma maman, ça l'a vraiment énormément, énormément affectée.
Ben, c'était sa grand-mère, comme sa grand-mère.
Oui. Non, oui. Mais c'est qu'elle elle était plus grande. Elle avait 9 ans et demi. Donc elle se rendait plus compte des choses, quoi.
Mm-hmm.
Et de l'irréversibilité, j'imagine. Et c'est vrai qu'elles étaient extrêmement proches. Elle était très proche de son papy, enfin, tout le monde, de toute façon.
Vous vous rendez compte, mais oui, je suppose que vous vous rendez compte que ce petit bout a perdu votre compagnon, le chien, après son papy, et puis ensuite sa mamie avec qui elle s'entendait super bien. C'est énorme ce qui s'est passé déjà pour elle.
Oui.
Alors d'emblée, je vais vous dire quelque chose, moi.
Oui.
Bon, non, parlez-moi de ce voyage. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Pourquoi D'accord. elle ne veut pas y aller?
Elle veut sa maman. Elle veut maman.
D'accord.
En fait, c'est la nuit. C'est plus la nuit. Elle a besoin que je sois là, que je sois présente le soir pour la coucher, le matin au réveil. Et depuis une semaine, enfin, une semaine maintenant. La maîtresse ne cesse de lui demander si elle souhaite y aller à ce voyage. Clara, lui, je peux vous dire votre prénom. Lui a dit que non. Mardi, elle lui a et je l'ai trouvé extraordinaire. Elle lui en a donné les raisons. Elle a dit qu'elle avait plus de famille, que toute sa famille était partie au ciel. Sur ce, je me suis dit que j'allais écrire un mot à la maîtresse, parce que moi j'attendais, je pensais que Clara changerait peut-être d'avis, et voyant ses amies toutes contentes et tout, d'y aller, et finalement il n'en a rien été. Donc mercredi, j'ai écrit un mot à la maîtresse. Et j'ai prévenu la maîtresse que j'allais téléphoner à la directrice pour lui en faire part par police.
Oui. Mm-hmm.
J'ai téléphoné à la directrice qui n'a rien entendu, rien voulu entendre. Elle a voulu organiser une... C'était extrêmement violent, enfin, dit tel que je le dis, on peut pas se rendre compte de la violence, en fait, du déni de la souffrance de ma fille. Hein. Donc je lui ai expliqué ce qui s'était passé, enfin les raisons pour lesquelles Clara ne voulait pas y aller. Et la directrice m'a dit, il faut absolument que nous fassions une réunion avec la maîtresse et que nous réussissions à convaincre Clara d'y aller.
Mais qu'est-ce que c'est que c'est... Mais ça me met en rogne, ça. Vous vous rendez compte de la bêtise de ces deux femmes?
Ouais.
Votre fille a d'abord déjà vécu quelque chose de difficile parce qu'elle est arrivée à 2 ans chez vous. Ça veut dire que dans sa petite tête, il y a des choses qui, de toute façon, sont de l'ordre du souvenir de ces 2 premières années.
Bien sûr.
Bon. Ça, vous l'avez expliqué à la maîtresse et la directrice. Et puis, vous expliquez les deuils de cette petite.
Oui. Et elle ne les entend pas.
Des traumatismes. On parle de traumatismes. Oui. De traumatismes qu'elle vient de vivre tout près, là, c'est tout frais.
Ouais.
Et vous avez ces deux perruches là, la maîtresse et la directrice, qui font fi complètement de cet enfant en fait. Il la nie. Elle ne l'écoute pas. Et moi je vous dis que si votre fille n'a pas envie d'aller à ce voyage scolaire, elle ne doit pas y aller. Et c'est tout. Et vous pouvez très bien, si vraiment elles font vraiment, parce que elles n'ont pas le droit de forcer votre fille à faire ce voyage scolaire. Oui. Et toutes les pressions qu'elles font sur votre fille, c'est mais non, mais c'est insurmontable, ça, c'est pas supportable, c'est insupportable.
Oui, tout à fait. Et ça a continué. Alors j'ai téléphoné. Alors elle voulait absolument. Alors moi je me justifiais parce qu'elle. Après, j'ai énormément de travail et puis en plus il y a le notaire, il y a les impôts, il y a plein de choses. Mes parents avaient des biens. Okay. Et je me suis justifiée bêtement au lieu d'être tranchée tellement j'étais dans un état de sidération.
Mais oui. Aurélia, reprenez vos esprits, respirez, faites ce qui vous semble le mieux pour vous et pour votre petite. Je vais vous dire, j'en ai connu avec ma fille, mais j'ai connu des maîtresses et des directrices d'école, mais qui étaient, mais mon Dieu, qui étaient, si j'appelle ces deux-là des perruches, vous voyez la perruche, ce que ça peut représenter, quoi. La perruche, ça fait beaucoup de bruit, voilà, ça fait beaucoup de bruit pour rien, en fait. Même si j'adore voir des perruches libres, quand je vais au Costa Rica, j'adore voir des perruches libres. Mais je parle plutôt de, vous savez, des perruches là qu'on entend et qui n'arrêtent pas de piailler et qui sont en cage et qui ont des raisons d'être en cage. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai pensé à l'autruche même. Parce que je pense que c'était plus ce à quoi je pensais, c'est-à-dire ces personnes qui, du haut de leur fonction, vont vous donner des leçons, leçons de morale et puis des leçons d'éducation et des leçons. Mais elle est en CM2, votre fille. Elle est en CM2 et c'est pas parce qu'elle va rater ce voyage en Bretagne et qu'elle verra pas 2 pauvres menhirs qui se battent avec une bigoudaine à côté en train de faire des crêpes qu'elle va rater sa vie. On est d'accord ?
Bien sûr.
Vous le savez très bien, Aurélia.
Oui, bien sûr.
Alors, si elle vous menace, écoutez-moi, si elle vous menace, genre, si elle met... Déjà, vous allez leur interdire dès lundi de parler directement à votre fille. Elles n'ont pas à mettre la pression sur votre petite. Ça n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est d'apprendre à votre fille l'histoire, la géographie, le français et tout. Ça n'est pas de lui dire « tu dois venir dans... » Parce que on n'est pas sur le même terrain là, de l'apprentissage.
Bien sûr.
Je vais vous dire un truc. Hein. Moi, ma fille, autour du CM2, CM1, CM2, elle est allée faire un voyage comme ça. Ça a été pour elle, la pauvre, mais vraiment l'horreur.
C'est vrai.
Mais oui, parce qu'elle était loin de nous, parce qu'elle a, voilà, il y a des enfants qui, en CM1, CM2, sont encore Oui, ça leur fait peur de d'être loin de leurs parents pendant 7 jours. Il y en a d'autres, je vais vous dire, ils se réjouissent d'être avec les copains et les copines. C'était mon cas, moi. Moi, les voyages scolaires, j'adorais ça. Mais j'avais des copains qui étaient terrorisés. Terrorisés. Et ils ne venaient pas. Et c'était il y a, je vous dis pas le CM1, on va remonter au vase de Soissons bientôt. Mais c'était il y a, oui, c'était il y a longtemps. On va pas dire combien de temps parce que... Mais... ce qui est le plus important, c'est ce que veut votre fille. Votre fille, aujourd'hui, c'est un petit être qui a le droit de s'exprimer, de dire ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Et il faut surtout écouter nos enfants quand ils ont cet âge-là, dans un événement comme ça. Parce que ça peut être traumatisant de la forcer à y aller. Voilà.
Oui, mais justement, c'est ce que j'avais écrit à la maîtresse mercredi dernier.
Oui.
Je lui avais dit que, enfin, ce que je vous ai dit, et donc je lui ai demandé si elle souhaitait que j'achète un ouvrage ou enfin je ne sais pas, enfin que sais-je.
Sur la Bretagne.
Voilà, sur la Bretagne. Enfin, je
ne
sais pas. Bon.
Vous êtes de bonne composition, vous. Hein.
Et voilà. Et elle ne m'a pas répondu. Après, donc, j'ai eu la directrice. Qui m'a ordonné de l'appeler jeudi matin. Jeudi matin, bien entendu, je ne l'ai pas appelée. Elle m'a appelée vendredi matin. Il se trouve que je partais, j'étais en rendez-vous, j'étais Boulevard Saint-Germain. Il y avait un bruit pas possible, je n'entendais rien. J'ai cru que c'était la gardienne au départ de l'école. Enfin, parce que j'ai eu peur que... Enfin, j'ai répondu parce que j'ai eu peur qu'il y ait eu un problème, que Clara soit malade. Ou que sais-je. Et en fait, non, c'était la directrice. Et vendredi, Clara rentre et arrive et me dit, j'ai une enveloppe pour toi. Et il y avait un mot de la directrice pour que Clara consulte si je le souhaitais, elle est une psychologue scolaire. Sur ce, on s'en a fait qu'un tour. J'ai téléphoné donc à la directrice et j'ai redemandé à nouveau à Clara pour savoir si elle voulait y aller ou pas. Et je lui ai dit, bon, bah, écoute, maintenant c'est tranché. Et donc j'ai appelé la directrice pour lui dire qu'elle n'irait pas. Mmh. Sur ce, la directrice m'a dit, mais comment ça vous... Ah oui, entre-temps, j'avais appelé le ministère de l'Éducation nationale.
Oui.
Pour savoir ce que c'est.
Si vous étiez obligé.
Voilà.
Et on vous a répondu quoi ? Tiens, ça m'intéresse.
Non, non. Il n'y a strictement aucune obligation. Ben et même
oui,
pas que.
Bien sûr.
Même au lycée, il n'y a aucune obligation.
Ben oui.
Et...
Même si c'est alors, très très emmerdant hein, qu'elle rate les menhirs, je vous ai dit, vous savez, les potions pour rendre plus fort, les galettes bretonnes, ouais. Tout ça. Non, je rigole parce que j'embrasse tous nos amis bretons. Ils sont nombreux à nous écouter. Ils savent que j'adore la Bretagne. Mais bon, voilà. Clara attendra un peu pour connaître les bonheurs de la Bretagne.
Oui. Non, mais parce qu'ils vont faire de la voile et du canoë. Bon, Clara a déjà fait du canoë, mais bon, de la voile...
Elle n'a pas envie de partir, c'est tout.
Elle peut faire de la voile quand elle a envie.
Quand elle en aura envie.
Voilà, et puis
vous
on
savez quoi
à la voile
je vais vous dire,
prochaines vacances.
Aurélia, il nous reste peu de temps parce qu'il y a beaucoup de monde ce soir.
Non,
vous inquiétez pas. Mais demandez à la maîtresse de vous lui adresser un mail. Vous avez l'adresse mail de la maîtresse ou de la directrice, c'est encore mieux.
Non, ils sont très, très arriérés. Il faut leur écrire sur le cahier de liaison.
Sur le quoi? Ah oui, le cahier de correspondance.
On appelait ça un cahier de correspondance à notre époque. Oui.
D'accord. Écoutez, ce que je vous conseille hein, en tant que parent, c'est de demander à la directrice quelle est son adresse mail, car vous allez lui signifier que votre fille ne va pas aller en Bretagne et qu'elle n'ira pas pour des raisons qui lui sont propres. Des raisons privées. Vous n'avez même pas à vous expliquer.
Oui,
et
oui.
Vous avez été assez bien élevé pour vous en expliquer. Parce que, et vous voyez, quand je les appelle ces autruches, ces perruches, quand vous dites que cette petite qui a vécu des traumatismes parce qu'un enfant de 7 ans ou 8 ans, quel âge a-t-elle, CM2, c'est quoi, 9 ans ?
Elle a 10 ans.
10 ans. À 10 ans, quand on perd son chien, quand on ne voit plus le compagnon de sa maman qu'on a connu quand on est arrivé ici en France, que le papy meurt, ensuite que la mamie meurt, mais elles sont abruties. Excusez-moi, elles sont inhumaines et abruties. Comment on ne peut pas comprendre qu'une petite fille de 10 ans est dans une période délicate où elle ne veut pas se séparer de sa maman pour tout un tas de raisons. Et sûrement la première, c'est de ne plus jamais vous revoir et qu'il y a un accident et qu'elle aussi, elle meurt. Elle a plein de choses dans sa tête parce que la notion de mort est arrivée là. Et à 10 ans, moi je peux vous dire, c'est arrivé un peu plus tôt et ça a été une déflagration. Quand je me suis aperçu qu'on allait tous mourir, et surtout moi, et qu'on n'était pas éternel. Et leur boulot qui devrait vraiment être de comprendre ça, elles font tout le contraire. Je vais vous dire, je suis pas copain avec l'école, déjà, mais je suis pas copain avec les écoles primaires. Là. Vous savez, les écoles entre le CE1, non, comment c'est le... Julia, le c'est quoi ? Le CP jusqu'au CM2, je peux vous dire que là, de la perruche, il y en a au mètre carré qui comprend rien. Des institutrices et des instituteurs. Pour autant d'institutrices et d'instituteurs dont c'est la vocation et qui comprennent parce qu'ils aiment les enfants, qui les comprennent et qui les connaissent. Mais vous en avez qui, vous savez, bien estampillé éducation nationale, c'est comme ça, c'est pas autrement, et qui réfléchissent pas plus loin que le bout de leur bec et qui vont vous asséner autant de bêtises qu'elles le peuvent. Donc,
j'ai peur, Olivier, c'est...
Les conséquences
Voilà.
Écoutez.
J'ai peur des conséquences.
Alors, je vais vous dire...
Elle veut absolument nous rencontrer.
Mais Aurélia, mais moi, la directrice pas, La directrice
Oui. Mais moi, je veux même...
Mais
je veux
Aurélia, même si, rencontrez-la. Au contraire, ne prêtez pas... maintenant, vous avez fait assez de choses pour y aller, pour la rencontrer et pour être très gentille, très douce, mais très ferme. Pour lui dire ce que je viens de vous dire. Madame, ma fille vient de vivre successivement depuis des mois des décès, des deuils. Elle traverse un moment extrêmement fragile, compliqué. Elle ne veut pas aller à ce voyage qui ne sera pas un trou dans son apprentissage de CM2. Et je vous demande vraiment de le comprendre et de clore le chapitre. Dites-lui d'une manière ferme, bien élevée et gentille. Mais dites-le-lui. Je pense que c'est très important que vous lui expliquiez en tant que maman ce que vit Clara. Voilà, c'est tout.
Oui, mais Olivier, en fait, cette personne est votre opposée. Elle n'entend pas et d'ailleurs, elle m'a dit vous n'avez pas confiance en nous.
Ouais.
Voilà.
Oui, enfin bon, c'est... Vous voyez, elle parle d'elle. Elle parle d'elle.
Oui.
Vous voyez, elle parle d'elle. Elle ne parle pas de Clara.
Non, jamais.
Elle parle d'elle. Elle parle de leur petit... Vous ne nous faites pas confiance.
Ouais.
Écoutez, dites-leur, OK, si ça vous convient, je ne vous fais pas confiance. Mais en attendant, ma fille est à l'école là, chez vous, et elle ne viendra pas lors de ce voyage scolaire. Elle n'ira pas. Point barre.
Ouais.
C'est tout. Soyez ferme. Parce que je vais vous dire, si vous commencez... Rencontrez-la. Parce que si vous ne la rencontrez pas, vous allez vous allez leur donner une occasion de dire, bah voilà, on voulait la voir, elle n'est pas venue. Et elle ne veut pas discuter. Là, vous lui dites, OK, je vous verrai, j'ai beaucoup de travail, je vous vois un quart d'heure, vous y allez. Et vous êtes...
mais elle veut me voir avec Clara.
Non, vous n'avez pas à la voir avec Clara. Elle n'a pas à faire subir ça à Clara.
Bah oui, c'est ce que j'ai dit.
Mais dites-lui que vous n'avez pas. Oui. Elle n'a pas à perturber Clara.
Je lui ai dit. Mais elle
Quelle école c'est ? Non, vous ne voulez pas le dire, l'école. Quelle école ?
Non, c'est l'école titre.
Quoi ? Non, ne le dites pas, en fait, ne le dites pas.
Ce que tu viens de dire, je ne sais pas si...
Vous me le direz hors antenne, d'accord ? Vous le direz à Florian hors antenne.
D'accord. D'accord, Olivier.
Elle est... Non, mais vous êtes tombée sur des hystériques, hein ? Je veux dire...
Hystérique, c'est trop gentil.
Encore une fois, le bien-être de Clara, c'est ce qui devrait compter pour eux. Leur mission, c'est d'accompagner nos enfants.
Bien sûr.
Mais elles sont là. Non, elles ont monté leur petit truc, là.
C'est l'école de la conscience, maintenant.
Et c'est une école catho ou c'est une école publique ?
Non, non, c'est une école publique. Et justement, pour la sixième, j'oscille entre, entre le privé et...
Enfin, non, mais alors, je vais vous dire, dans le public, en sixième, mais mettez-la dans le privé si vous pouvez, hein, je vous le dis. Mais bon, ouais. Ça, c'est encore une fois, ça, c'est mon avis. Ouais. Mais voilà.
Non, mais je penchais plus pour le privé.
Ouais, parce que entre l'école, la publique, CPCM2, où vous tombez sur des autruches, dans le public de la sixième et la terminale, vous allez tomber sur plein de gens qu'on n'a rien à foutre. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une espèce de truc qui... parce que dans le public, il faut avancer. Et puis, encore une fois, il y a des profs qui sont formidables. Mais il y en a tellement qui sont à la ramasse et qui font leur boulot sans s'occuper vraiment. Vous voyez, le public, c'est un peu... les enfants sont livrés à eux-mêmes. Hein. Dans le privé, ils sont accompagnés. Voilà.
Ouais.
Vous aurez l'assurance que votre enfant sera accompagné et vous aurez sûrement l'assurance d'être entendu. Quand se pointera une histoire comme ça. C'est... vous vivez un enfer, et vous avez raison, parce que bon, c'est un petit enfer, vous avez raison.
Mais,
croyez-moi, vous êtes dans vos droits de lui dire d'arrêter de perturber Clara, hein, et de bien la prévenir. Parce que, vous savez, là, le fait de vouloir convoquer Clara avec vous pour ça, vous pouvez lui dire maintenant stop. Stop, parce que ça va prendre des conséquences que vous n'avez que ni moi, ni vous, vous avez envie de vivre. Faites-lui comprendre fermement que c'est fini, là. Que c'est un sujet qui est clos. Est-ce que vous en sentez capable ou pas ?
Par mail, oui. Enfin, par écrit, oui. Mais lui parler, comme elle ne m'écoute pas... Et...
Ok, alors, écoutez. Mail, vous m'avez dit que vous ne l'aviez pas, le mail ?
Si le mail de la directrice, je l'ai.
Ah, ok, alors, et vous lui demandez expressément de... Alors, répondez-lui fermement, mais encore une fois, très, très clairement, hein, je veux dire. Mm. Et mettez-lui en plus que, après renseignement pris auprès de l'académie, Clara n'est absolument pas obligée d'aller faire ce voyage.
Ben ça, je lui ai dit justement par rapport au ministère de l'Éducation.
Et alors, elle a répondu quoi ?
Il y a eu un grand blanc.
Ah ben oui, il y a eu un grand blanc. Vous savez, c'est les autruches, c'est comme ça. Ou il y a un blanc, ou alors elles se mettent la tête dans un trou. Mais ce qui revient au même, finalement.
Non, enfin, là,
vous en convenez ? Quoi ?
Oui, non, oui, vous avez raison. Mais elle a recommencé de plus belle.
Oui, ben parce que... Bon. Je vais vous dire, là, on tourne en rond. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que vous allez me répéter que, de toute façon, elle tourne en rond. Voilà. Et que Dieu seul sait pourquoi elles ont l'obsession que votre fille aille faire ce voyage scolaire qui éclatera ses copines et ses copains et tout. Mais ce qui importe, c'est le bien-être et l'équilibre de Clara, qui a 9 ans ou 10 ans. Et à cet âge-là, il faut écouter, de toute façon, à tout âge, il faut écouter nos enfants.
Ah, bien sûr.
Et ne surtout pas les blesser, ne surtout pas les tordre. Putain, il y a assez du reste de la vie pour qu'ils se tordent. Vous comprenez ?
Bien sûr.
Voilà. Donc expliquez ça à cette directrice.
Non, merci infiniment.
Je vous en prie, je vous en prie. J'espère que je vous aurai donné un peu de force.
Ah oui, merci infiniment. Merci du fond du cœur.
Je vous en prie. Et puis embrassez bien votre petite pour nous. Dites-lui que nous, on est là, quoi. Que si elle veut un cours sur la Bretagne, ou la directrice, dites-lui, envoyez-la-moi, la directrice. Envoyez-la-moi. Je vais vous dire, en 5 minutes, ça va être réglé. Je vous embrasse.
Moi aussi, Olivier.
Au revoir, Aurélia. Bon courage.
Au revoir.
Au revoir.
Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Il est à minuit 50 sur Europe 1. Nous allons accueillir Gary maintenant au 39-21. Bonsoir Gary.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Gary. Alors, il nous reste 10 minutes. Hein, donc, on continuera notre discussion demain en début d'émission, si vous le voulez bien. Vous êtes libre demain ?
Oui, très bien, oui.
Voilà, donc fait. Florian vous rappellera vers 23h, 22h55 et puis on redébutera l'émission avec vous. D'accord ?
D'accord, oui, très bien.
D'où nous appelez-vous, Gary ?
Donc, j'appelle à côté de Bourg-en-Bresse.
D'accord. Et quel âge avez-vous ?
J'ai 37 ans.
D'accord. Vous allez nous parler de quoi ? Que voulez-vous
dire ? Je vais parler de l'enfer de mes enfants depuis la séparation avec leur maman.
Oui.
Donc, bon, on s'est séparés, bon, peu importe la raison. Du coup, bon, elle me disait qu'elle voulait la garde des enfants. Donc, j'ai donné un accord à l'amiable avec la maman. Donc là, l'enfer des enfants a commencé.
C'était quoi l'accord à l'amiable ?
Parce que l'accord, c'est qu'elle avait la garde à sa maison, avec tous les aides, bien évidemment.
Oui, oui.
Et moi, je les avais un week-end sur deux.
Oui, donc quelque voilà. chose d'assez classique, hein, on est d'accord ?
Voilà, tout à fait.
Et la moitié des vacances, c'est ça ?
Et la moitié des vacances.
D'accord.
Quand j'aurais eu un appartement, parce que le problème, c'est qu'on avait acheté une maison.
Oui.
Et bon, bah, la maison, on l'a vendue à perte. Elle a vidé les comptes, elle nous a mis elle a pris tout l'argent, les bijoux de famille, les photos. Elle m'a laissé vraiment sans rien.
D'accord.
Du coup, je me suis retrouvé à la rue. J'ai dû être obligé de déposer plainte contre le conjoint de madame.
Pourquoi
parce
ça ?
Parce qu'il tapait les enfants, les ridiculisait, les insultait, les humiliait. Les enfants avaient peur, pleuraient quand je ramenais les enfants au domicile de la maman.
Quel âge ont-ils, les petits, là ?
Donc là, ils ont 7 ans et 8 ans.
D'accord. Ce sont des garçons ? Garçons, filles ?
Oui, des garçons, oui.
Deux garçons, d'accord.
Et quand ça s'est passé, ils avaient entre 3 et 4 ans.
D'accord.
Donc ils étaient très jeunes. Nathan, mon grand, il a fait plusieurs tentatives de suicide chez sa maman à cause de l'acharnement du beau-père.
À quel âge ?
Il avait 14 ans à cette époque.
D'accord, parce qu'aujourd'hui, ils ont quel âge ils ont ? Parce que vous m'avez dit 7 ans et 9 ans, et aujourd'hui, vous me dites 14 ans. Donc, quel âge ils ont aujourd'hui ?
Les deux petits, ils ont 7 ans et 8 ans et 9 ans. Ils vont aller.
Oui.
Et le grand, il va sur ses 17 ans.
D'accord, ok, parce qu'il y en a 3. J'en avais compté 2, moi, c'est pour ça. Okay.
Oui, il y en a 3, mais le grand, je la garde depuis le début. C'est pour ça.
D'accord. Donc vous avez porté plainte quand ils avaient 3-4 ans pour mauvais traitement.
Voilà, tout à fait.
Ça a mis un froid dans vos relations, je suppose.
Tout à fait, puis c'était très difficile pour moi parce que madame s'est mise avec un ancien gendarme qui connaissait, un ancien militaire qui connaissait les gendarmes, qui buvaient les cafés ensemble.
D'accord.
Donc ils ont pris ma plainte sans problème. Après, ils m'ont fait attendre. Ils m'ont dit, mais vous attendez, monsieur, un petit peu là. Ils m'ont fait attendre 15 minutes. Et ils sont mis au rond-point un peu plus loin. Ils ont mis une patrouille de gendarmes.
Oui.
Et là, ça a commencé les insultes de certains gendarmes de ces areas. J'ai pas peur de le dire. Des PV. Alors là, j'ai passé une bonne demi-heure. C'était pas cool.
Alors, parce que j'ai pas compris. En fait, vous allez porter plainte.
Voilà.
Et quand vous sortez de la gendarmerie, ils se sont mis un peu plus loin en rond-point, c'est ça ?
C'est ça, ils ont fait un guet-apens à la sortie de la gendarmerie.
D'accord, ok.
Donc, ouais, c'est pas cool, donc énormément d'argent.
Pas cool, pas cool.
Ouais,
vous êtes gentil.
Oui, mais c'est comme ça. Ouais.
Vous auriez dû le signaler, ça. Vous savez,
mon avocate m'a dit qu'il ne fallait surtout pas payer, mais j'étais
en dépression.
Non,
et puis vous auriez dû signaler, alors je le dis parce que bien évidemment, vous étiez dans une passe compliquée, sans doute fragilisée, mais vous qui nous écoutez, si vous notez que des gendarmes ou des policiers, comment vous dire, de par le fait qu'ils sont des hommes représentant la loi, mais excellent, en tout cas, font, comment on dit, aidez-moi là, Julia, Florian, quand on va plus loin que ces gendarmes qui ont fait ça, excès de zèle, mais profitent de leur statut d'hommes de loi, abus de pouvoir, merci. Quand des hommes de loi comme ça commettent un abus de pouvoir, caractérisé. Parce que là, copain avec les gendarmes, et il vous allume à la sortie. Vous savez que vous pouvez écrire l'équivalent de l'IGPN pour la gendarmerie, ça existe, et que ces organismes sont très attentifs à ce type de choses, parce que on sait que dans ces gendarmes et dans ces policiers, il y en a qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Or, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils sont là pour protéger les citoyens, et surtout pas pour régler les comptes du copain. Vous voyez ce qui vous est arrivé, en gros, Gary?
Oui, tout à fait, oui. Voilà. Vraiment pas...
Ils vous ont mis une amende, pourquoi?
Bah, ils ont trouvé tous les défauts, hein, les roulis,
ouais, c'est les tarouilles, après, ils avaient une petite pente. Super, les gendarmes. C'est quelle gendarmerie?
C'est la gendarmerie de Césaria, et puis...
De Césaria?
Avec des insultes, hein.
Super.
Et avec des insultes, hein, disant... Vous n'êtes pas capable de vous occuper de vos enfants, madame le ferait mieux. Test anti-cannabis, bon, négatif, pas de problème, alcool, ils m'ont fait ça au moins 10 fois. Voilà.
Bravo les gendarmes de Césaria, super.
Ils ont même failli m'embarquer une fois parce qu'on s'engueulait avec la maman de mes enfants. Et c'est Nathan qui est intervenu, qui avait 14 ans, parce qu'il voulait m'embarquer à la gendarmerie, parce que la maman a dit que je l'avais tapé. Et c'est mon fils qui s'est mis devant, il a dit « Papa, il n'a pas tapé. » Voilà.
Vous n'avez jamais été violent avec cette femme?
J'ai jamais touché la maman.
D'accord.
C'est bien le contraire. C'est elle, d'accord, qui est agressive avec les enfants et tout le monde.
Où vous en êtes là, Gary, alors?
Alors là, quand ça, à ce moment-là, du coup, donc j'ai dû être obligé de placer le grand, qui avait 14 ans, dans une famille d'accueil.
Pourquoi? Parce que vous étiez à la rue?
Parce que j'étais à la rue, je ne pouvais pas partir avec mes enfants dehors. Voilà.
Comment c'est-il que vous étiez à la rue? Vous n'aviez plus de boulot? Vous expliquez-moi tout ça.
Oui, j'ai perdu tout. Quand on s'est séparé, elle m'a trompé dans mon lit, avec mes enfants dans la maison.
D'accord. Et commencez par ça. C'est important, Gary.
L'humiliation et tout. Et oui, je suis parti en hôpital psychiatrique. Tentative de suicide, oui. Évidemment.
D'accord. Vous vous êtes rendu compte qu'elle vous trompait chez vous?
C'est mon fils encore qui m'a dit. Il m'a dit « Papa, tu travailles beaucoup, tu ne vois pas, mais maman, elle rentre très, très tard le matin et c'est pour ça qu'elle est très en colère contre le grand, parce qu'elle ne le veut plus, elle ne se voit plus. » Enfin, voilà. Et ouais, c'est mon
vous m'avez dit qu'elle vous avait trompé dans la maison familiale. Qui vous l'a dit, ça? C'est sûr, ça, ou
Oui, c'est mon fils qui me l'a dit.
D'accord. Clairement, il vous a dit qu'elle avait reçu un homme à la maison.
Oui, tout à fait.
D'accord.
Et puis, je veux rajouter que son plaisir, c'est quand même d'ouvrir la porte de sa chambre pour faire l'amour quand les enfants sont dans la chambre d'en face. Hein. C'est très grave ce que je dis, mais c'est la réalité. Je l'avais signalé il y a
c'est
deux
très
ans.
Grave,
j'ai dit,
très grave.
J'ai dit à la protection de l'enfance, parce que c'est mon grand qui me l'avait dit. Je lui dis, apparemment, avec son copain, il se tripote devant la télé. Et ils m'ont dit, non, c'est pas grave, c'est juste des bisous, apparemment. Et là, les deux petits m'ont dit, il y a un mois, oui, on a vu le conjoint de madame, je ne vais pas dire les noms, faire pipi dans la bouche de maman.
Oula, bon, d'accord.
Et
Gary, on va continuer cette discussion demain. Et puis, bon, donc Florian vous rappelle demain à partir de 22h55, d'accord?
D'accord, très bien.
Ok, merci. Et puis à demain, Gary, ok?
Ben, merci à vous.
Je vous en prie, à demain. Au revoir.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. C'est mieux, c'est bien de passer 2 heures ensemble. C'est consistant. Et nous sommes très contents. On vous embrasse bien fort. N'oubliez pas qu'ici, on vous aime. N'oubliez pas que chaque moment. Bien, chaque moment, vous devez avoir conscience qu'il faut vous occuper de vous. Au moment de vous coucher, une petite tisane, un petit chocolat, quelque chose qui vous fait du bien. Et puis, surtout, vous faites de beaux rêves. On vous embrasse et on vous dit à tout à l'heure, puisqu'il est 1h du matin. Salut.